Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans ton activité pour te poser les bonnes questions et te permettre de passer à l'action sur des thématiques importantes pour ta vie de freelance. Et si tu suis le podcast depuis un moment, tu sais que j'aime bien dire que les freelances sont des entrepreneurs et que développer cet état d'esprit du freelance entrepreneur, c'est hyper important. Aujourd'hui, dans cet épisode, on accueille Antoine Legendre, freelance devenu réellement entrepreneur selon la définition de base, quand il a fondé Freebie, un outil de gestion intelligent de notre activité de freelance qui, personnellement, me change déjà la vie et me permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et avec Antoine, on s'est tout de suite très bien entendu parce que on a tous les deux des visions proches de ce que ça représente d'être freelance entrepreneur et aussi une démarche très similaire dans nos projets respectifs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on concilie nos activités de freelance pour bien sûr faire le métier qui nous passionne, mais aussi pour générer du revenu, un revenu suffisamment élevé qu'on réinjecte ensuite dans des projets entrepreneuriaux qui nous inspirent, au service des personnes qui nous inspirent. Et dans le cas de nos 2 projets, ce sont vous, les freelances. Pour moi, ce projet, c'est Surf en Freelance et ce podcast. Surf en Freelance dont vous avez peut-être déjà entendu un peu parler dans les précédents épisodes. Et pour Antoine, c'est donc Freebie. Dans notre échange, on retrace donc tout le parcours d'Antoine, de sa vie de freelance en tant qu'UX designer, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est à lui de répondre à un problème qu'il rencontrait dans son activité, en créant un produit, un service, celui qu'il développe aujourd'hui sous sa casquette d'entrepreneur, fondateur de Freebie. On a donc pris le temps de détailler chacune des étapes dans le lancement de ce projet-là, pour te donner des clés sur la création de projet. Et vous verrez donc qu'il y a plein d'éléments très importants dans cet épisode pour ton activité et la gestion de tout projet, quel qu'il soit. Donc, je te laisse directement te plonger dans notre échange et on se retrouve à la fin. Ah oui, et désolé pour les petits bruits de micro qui tapent parfois. Oups. Du coup, salut Antoine.
Salut Thomas.
Ravi de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir. Merci à toi.
Et, il y a plusieurs choses dont je veux parler avec toi aujourd'hui. Je veux parler de ta vie de freelance, parce que t'es aussi freelance, même si je pense que les freelances te connaissent aujourd'hui comme le fondateur de Freebie pour cette merveilleuse solution d'aide à l'administratif, la facturation, tout ça dont on parlera après. Mais pour commencer et mettre un peu en jambe pour que les gens apprennent à te connaître aussi, c'est la première question que j'aimerais te poser, c'est comment et surtout pourquoi tu es devenu freelance au début?
Carrément, bah écoute, moi j'avais envie de bosser assez rapidement en tant qu'indépendant, et je le savais déjà assez jeune. Parce que du coup moi j'étais je me suis spécialisé en web design, donc j'ai fait une licence à l'EMI, et du coup c'est les troncs communs en fait où tu fais design, développement et marketing la première année, et ensuite tu te spécialises dans un des trois domaines en seconde et troisième année. Moi j'ai pris le design et ensuite je me suis spécialisé en UX, et du coup j'ai bossé pendant 3 ans, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire dans le web et qu'il y avait pas mal d'argent qu'on pouvait vraiment faire pas mal d'argent en bossant, et moi j'étais plus du genre fêtard à l'époque, et pas du tout dans le travail.
Ouais.
Et c'est grâce à cette école en fait que j'ai vu qu'on pouvait réaliser des petites missions, qu'on pouvait avancer, avoir un statut facilement.
Donc t'étais déjà freelance à l'école en fait?
Je me suis mis en deuxième année directement au freelance, justement parce que j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit: Antoine, est-ce que t'es dispo pour bosser sur un site web d'un ami? Et moi j'avais pas de statut, j'avais jamais codé un site, et je me suis dit ouais grave. Et donc du coup c'est là que je me dis ok, bah comment on fait pour avoir un statut, comment on fait pour créer un site, et j'avais eu 1 an et demi de cours, donc avec des notions quand même pour bosser, mais j'avais pas du tout toutes les compétences quoi. Mais au final c'était un petit site vitrine, donc c'était pas du tout un gros travail, et donc j'ai dit go, je me lance, et c'est grâce en fait à cette mission là que j'ai créé mon statut, puis que j'ai cherché comment faire pour tout développer.
Et t'as mis les pieds dans le plat quoi.
Tout à fait. Et plié dans le plat direct, et après regarder ce qui se passe quoi.
Et du coup pour résumer, en fait la raison pour laquelle c'est plus par opportunité qu'autre chose, mais tu te disais tiens, il y a un truc à faire pour avoir de l'argent et avoir une vie un peu confortable, même quand t'étais étudiant, alors que...
Mais en fait, j'avais pas du tout d'argent.
Ouais.
Parce que moi, j'avais une famille qui est pas très riche de base, et du coup, j'avais pas du tout d'argent, en fait, et je sortais le soir alors que je pouvais pas. et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas bosser et faire un peu de cash, et ensuite pouvoir s'amuser tranquille.
Et du coup, faire des sites plutôt que bosser à McDo, par exemple.
Voilà, exactement. Et moi, j'avais pas du tout envie de bosser un petit boulot ou choses comme ça. On avait les compétences pour, et on commençait à apprendre plein de choses dans le web et pour travailler. Et je me suis dit, bon bah attends, les prix ils sont quand même assez relativement cool, pourquoi pas se lancer tout de suite, et justement pendant que je suis à l'école, pour que je puisse, une fois arrivé sur le marché, avoir 3 ans d'expérience avec mes clients, savoir parler à des clients, des missions déjà en cours, et d'arriver sur le marché en fait un peu plus avantageux que les autres qui commenceraient peut-être à chercher des clients à ce moment-là quoi.
Et du coup tu fais plusieurs années de freelance à l'école. Et quand tu finis l'école, tu te lances direct à plein temps à ce moment-là, ou t'es passé par un job après?
Alors, un peu des deux. En gros, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Peugeot, et pendant 6 mois, et là-bas, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé en free. Et en fait, ils m'ont même proposé un job en CDI, et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'avais pas du tout envie d'être cloîtré là-bas.
Ouais.
J'avais envie de passer par là, mais j'avais pas envie de rester des années. Et donc, du coup, j'ai négocié un 4/5e pour être pris du lundi au jeudi.
En freelance
chez eux, quoi. Ce qui me permettait, en fait, d'avoir le vendredi et le week-end et le soir pour gérer mes autres clients et de pouvoir avancer. J'avais pas envie d'être en 5/5e, mais j'avais envie d'avoir une mission fixe, en fait, pour commencer. Et en fait, chez Peugeot, c'était top parce qu'on était dans le studio du UX en recherche et développement, où on s'occupait de tout ce qui est parcours de mobilité, et on s'occupait des écrans dans les voitures autonomes pour occuper les gens qui vont arrêter de conduire dans pas trop longtemps. Et donc, c'était vraiment du moment où il se lève le matin jusqu'au moment où il rentre chez lui avec toute son espace de mobilité, quoi. Et avec des applications pour justement les faciliter leur vie dans tous les jours, quoi.
Comment t'as réussi à le convaincre ce client-là, du coup, de lui dire, qui te propose un CDI et que toi tu dises en fait non, ce que je préfère, voilà mes conditions, c'est ça, et qu'il accepte, parce qu'il voulait vraiment le garder?
Bah ouais, et je me suis un peu rendu indispensable, quoi. Et c'est vrai que les 6 mois de stage, c'est comme si j'étais déjà enfin, j'ai pris ma place là-bas, quoi. Et du coup, à la fin, bah ils avaient vraiment besoin de quelqu'un en UX, et moi j'étais dispo, et ils m'avaient formé pendant 6 mois Donc forcément,
ils voulaient pas recommencer le processus.
Ils voulaient pas recommencer le process. Ils étaient contents de bosser avec moi et moi j'étais content de bosser avec eux. Et du coup, je me suis permis de négocier ça pour être sûr de pas arrêter mon activité de freelance, parce qu'en fait, la problématique quand tu fais ça, c'est que si t'es en 5/5e dans une boîte en CDI, qui est une grosse boîte, en fait, tu pars plus jamais, quoi.
Ouais, c'est clair. On retrouve les problématiques de. Tu te restes dans ta bulle et tu vois pas tout ce qui se passe derrière. T'avais combien d'autres clients, du coup, à gérer le soir, le week-end et le vendredi?
14.
14? Direct à ce moment-là, à la fin d'école?
À ce moment-là.
Ah ouais?
Ouais, c'était le bordel.
Mais tu m'étonnes. Mmh. Ah, mais, et du coup, ça revient à ce que tu me racontais la dernière fois, qui est de dire, avec tous ces clients et toutes ces choses à produire, t'as pas le temps de gérer ta boîte, entre guillemets, c'est ça, hein?
J'avais plus rien. J'avais plus le temps. Justement, je pensais que ça allait le faire avec le vendredi et d'avoir un jour par semaine et pour faire ça. Mais du coup, je passais tout mon vendredi à faire ça, en fait. Donc, et les clients, je leur répondais une semaine après. Donc, c'était pas possible. Et je pensais que j'allais pouvoir gérer les deux le soir, le week-end et tout. Mais c'était impossible parce que j'avais pas, du coup, un outil qui permettait de gérer mon activité, quoi.
Ouais, ce qui arrive à Freebie, du coup, derrière.
Tout à fait.
On reviendra dessus. Mais, ces 14 clients, ils sont tous arrivés d'un coup, ils arrivent à petit à petit. Est-ce que c'est pas aussi toi, un moment, qui a abusé à vouloir trop en prendre?
Aussi. aussi. Par contre, c'est pas des 14 clients simultanés où je bossais tous les jours dessus.
D'accord.
C'était plus j'ai
projets en cours, quoi.
C'est des projets en cours. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aime pas du tout le one shot. J'aime pas les missions où tu payes une journée pour faire ci, pour faire ça et faire un petit truc et partir. Moi, j'aime bien accompagner le client du début à la fin des missions. Là où je peux le faire, bon, par rapport à mes compétences, mais j'aime pas juste prendre du one shot. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est toujours instaurer une relation de confiance avec mes clients. Et du coup, je leur disais, je coûte tant par jour, votre projet va durer de temps à temps à peu près, parce que mes dispos, c'est là. Je sais pas exactement combien ça va me coûter, mais ça va coûter environ ce prix là et tous les mois on fait une facture et on regarde le temps que j'ai passé sur le projet, on fait une facture et on paye. Et comme ça permettait, en fait, de pas avoir une des deux parties qui se fait avoir, parce que soit c'est le freelance qui facture trop au forfait et donc du coup il gagne plus d'argent et donc du coup le client il est pas avantagé, quoi, enfin il gagne pas il paye pas au juste prix, et d'un autre côté, si c'est le client, bah c'est l'inverse, c'est le freelance qui va trop travailler.
Alors que là, c'est vraiment une espèce de relation vertueuse que c'est
tout à fait. Et en fait, le client, si tu travailles bien, qu'il est content et que t'es sincère avec lui, en fait il a aucun problème à te payer, et au contraire, c'est lui qui appuie avant que tu lui envoies ta facture sur le bouton de paiement s'il est content, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Et donc c'est pour ça que ça a facilité énormément la relation avec mes clients, cette méthode là
ok. Du coup, quand t'as tous ces clients-là, comme tu disais, t'avais pas le bon outil pour gérer toute la partie administrative de ta boîte à côté et faire en sorte que tu sortes les factures au bon moment, etc. C'est quoi les gros pain points, les grosses douleurs que tu ressens à ce moment-là en te disant, oh, putain, j'ai pas un outil pour, et c'est quoi le ce qui vient après le pour?
Ben c'est marrant parce que c'est un client qui m'appelle un jour et qui me dit, Antoine, t'es dispo pour bosser sur tel projet? Et je lui dis, je sais pas. Je savais pas où j'en étais, je savais pas si je pouvais en prendre d'autres, je savais pas si où est-ce qu'ils en étaient mes projets en cours, puisque j'avais plus le temps de les gérer aussi. J'avais pas, en fait, de d'outils qui me permettaient de savoir où j'en étais sur mon activité, si j'étais rentable, pas rentable, si je pouvais prendre d'autres clients, si je pouvais pas, quand est-ce que je vais payer mes charges. J'avais pas ça, en fait, donc j'avais pas de visibilité.
Flou total,
et c'est aussi pour ça que j'en avais 14. C'est parce que je disais oui, pas de problème, moi je peux le faire. Et puis de toute façon, à partir du moment où le client t'appelle, au moment où tu commences à travailler, au moment où tu vas être payé, c'est jamais en même temps, quoi. Donc il y en a un qui te dit oui, puis après l'autre qui te paye, puis un autre qui t'appelle, et en fait c'est, du coup ça permet quand même de gérer les clients parce que tout arrive pas en même temps. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
C'est marrant, je pense que j'ai vécu un peu la même chose au début, et je pense que c'est une espèce de frénésie dans laquelle tu te lances au départ. Moi, la première année, quand je me suis lancé en freelance à plein temps, je sortais d'une année où j'étais en alternance et à l'école, et j'étais en freelance à côté. Et à la fin de cette année, je me lance et je me dis, en fait, tout le monde là, mon ancienne boss, ma directrice de master, etc., m'ont toutes dit, c'est une erreur, tu devrais aller en agence avant. Et du coup, moi, j'étais dans une espèce d'énergie où je me disais, faut que je prouve à tout le monde que ça marche, que je peux gagner ma vie, même mieux que tous. Et du coup, je suis allé comme un porc. J'ai pris tout ce qui passait. J'avais beaucoup trop de missions. Et pareil, je me suis grillé et je ne savais pas. Comme tu dis, ce flou là, ça me parle beaucoup. Je pense que ça parle aussi à beaucoup de freelances qui sont au début. Et dès que ça commence à bien marcher, t'es là, oui. Et tu te retrouves à un moment à te dire, putain, en fait, comment je vais réussir à faire tout ce travail dans le mois qui arrive et en plus à gérer les autres choses que j'ai envie de gérer et que j'ai envie de faire, qui sont parfois les raisons pour lesquelles on s'est lancé en freelance, c'est de faire des trucs à côté.
Bah c'est ça, et puis c'est au moment où tu cherches des clients, t'es au tout début et on te propose des missions, donc t'es pas en train de dire bah non.
non, je cherche mais j'en veux pas.
Bah ouais, alors que non, tu dis ouais. Et puis en fait c'est le fait aussi d'avoir dit oui, je pense, qui a fait que c'est ça qui a fait que tu dois gérer, tu dois
apprendre à gérer.
Ouais,
se professionnaliser en quelque
sorte.
C'est
ça. Et c'est un peu la pression, mais d'un côté, t'as les objectifs et t'as les choses à faire et à rendre, donc c'est 10 fois plus motivant que si t'avais, prendre un petit client plus tard.
Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là où tu as cette prise de conscience quand ton client te demande si t'es dispo et que tu dis « je sais pas », combien de temps tu mets à mûrir la réflexion et te dire en fait c'est moi qui dois créer cet outil parce qu'il n'existe pas?
2 mois.
2 mois? Ah ouais, ça allait vite.
Ouais, ça allait hyper vite. C'était fin 2016, septembre 2016 à peu près. Et donc là j'ai commencé à veiller et à trouver en fait un outil pour moi, quoi. J'étais pas du tout parti pour, je me suis pas dit ah oh, j'en ai pas, je vais le faire, quoi. Ouais. J'en ai besoin, qu'est-ce qui existe? Et en fait tout ce que j'ai trouvé c'était des outils de facturation. Uniquement de la facturation, qui pouvait gérer des factures, etc. Mais il n'y avait pas d'outil de gestion complet et dédié aux indépendants, en fait. Et les problématiques, c'est qu'il n'y avait que des espèces d'Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais il n'y avait pas d'automatisation et pas d'intelligence. Et c'était les deux problématiques qui m'ont fait, en fait, vraiment bosser dessus.
Ouais.
Mais à la base, j'ai quand même fait un petit proto dans ma chambre, parce que j'avais quelques notions de code, et du coup, j'avais fait un proto avec un thème HTML et un peu de PHP, où j'avais la liste de mes clients, je pouvais ajouter des clients à la main, je pouvais, dès qu'ils m'avaient payé, je rajoutais un virement de 1000 euros, dès que j'avais une facture, je l'importais dedans. Mais en fait, c'était trop fastidieux, quoi. Ça centralisait tout, mais je vais quand même faire plein d'actions à côté. Et c'est ça, en fait, c'est en créant ce prototype que je me suis dit, ouais, mais comment on ajoute les clients automatiquement, comment on synchronise comment on récupère les mouvements bancaires, comment on les ajoute en compta automatiquement.
Okay.
Et en fait, j'avais besoin de ça pour vraiment me faire gagner du temps pour gérer mes clients. C'était pas, en fait, j'avais pas besoin d'un outil pour, en fait, faire la même chose que dans un Excel. J'avais vraiment besoin que je fasse rien, en fait, parce que j'aimais pas ça à l'admin.
Ouais.
Et je voulais en faire le moins possible, quoi.
Et c'est là, du coup, en créant ce proto et que tu te rends compte que voilà les enjeux qui me permettraient de vraiment être à l'aise, que tu te dis, OK, je vais créer ce qui est aujourd'hui Freebie.
C'est ça. J'ai vu vraiment les points de friction de mon proto et je me suis dit, OK, comment on améliore ça. Et puis après, je me suis dit, attends, c'est trop bien. Il y a pas d'outil qui fait ça aujourd'hui, comme ça et surtout avec une ergo nouvelle et qui soit pas justement comme la plupart des outils comptables. On a un peu cassé tous les codes comptables pour justement avoir un truc qui soit plus simple et qui plaide à tout le monde, quoi.
Ouais.
Et que n'importe qui puisse l'utiliser facilement, quoi.
Il se passe quoi dans ta tête, du coup, à ce moment-là où, t'as l'habitude de toujours être freelance pour des clients, travailler pour les projets des clients et d'être dans cette réflexion-là, mais pour tes clients. Quand t'as ce truc où tu te dis « Ah, il faut que je crée cet outil », qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis « Je vais arrêter d'être freelance » Enfin, c'est quoi le processus de réflexion que t'as à ce moment-là, quoi?
C'est flou.
Encore une fois.
C'est hyper flou. C'est OK, il faut que je lance ça. Après, je travaille chez Peugeot. J'ai un job cool. Je gagne pas mal de cash.
Ah, il était encore chez Peugeot.
Toujours chez Peugeot à l'époque. Et je suis resté pendant presque 8 mois chez Peugeot en construisant l'outil.
Donc, t'avais Peugeot, 14 clients et
l'outil. Bon, après, les 14, ils sont, au fur et à mesure, il y en a eu beaucoup moins. Et puis, j'ai arrêté aussi d'en prendre quand j'avais Freebie qui passait beaucoup. Mais pendant à peu près, 6 mois encore, j'ai ralenti les clients pour avoir du temps pour Freebie. Et après, donc là, on a créé la boîte en mars 2017 et je suis parti en mars 2018 de Peugeot. J'ai vraiment fait un an là-bas et à bosser le soir, le week-end, comme un maboule.
Ouais, donc tu t'es pas dit je vais passer entrepreneur à 100%, parce que c'est même pas le cas aujourd'hui, en fait, d'ailleurs.
Bah, c'est pratiquement le cas, mais pas à 100%. Mais à l'époque, j'avais pas d'argent, en fait. Et quand tu montes une boîte sans argent, c'est impossible. Mais j'avais pas d'argent, mais je savais que tous les mois, j'allais avoir un salaire assez conséquent qui permettait de couvrir les frais de la boîte.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai un truc fixe, je vais avoir du cash qui va arriver, j'ai pas d'argent de base, mais je sais que tous les mois je vais pouvoir injecter, donc c'est comme ça que j'ai cherché directement à avancer, comme ça.
Du coup, tu t'es consciemment dit à ce moment-là, je vais financer le développement de ma boîte avec mes revenus de freelance plutôt que d'aller chercher des investisseurs, par exemple.
Tout à fait. Et j'ai fait ça parce que je pouvais, déjà, j'étais bien payé là-bas et que j'avais pas de raison de, il fallait du cash pour monter la boîte.
Ouais.
Et d'un côté, je pouvais pas tout arrêter du jour au lendemain pour sans argent pour monter une boîte et d'aller chercher des investisseurs, alors que je savais même pas si ça allait marcher, si il fallait d'abord faire tous les tests et tout ça avant de se lancer, quoi. Donc en fait, le fait de de faire ça en même temps, ça m'a permis vraiment de prendre du recul et de pas aller trop vite non plus.
Ouais.
De pas bombarder d'un coup sans regarder autour de moi. Et on a fait beaucoup de tests utilisateurs, on est allé voir nos users, on a fait des focus group, on a beaucoup parlé avec eux avant de lancer une seule ligne de design.
Ouais. Du coup, c'est quoi c'est cool que tu parles des tests, parce que du coup la prochaine question c'était à partir du moment où t'as ton proto, t'es tout seul dans ta chambre et tu te dis ok, faut que je me lance, c'est quoi un peu les différentes étapes que t'as traversées et comment est-ce que t'as construit ça en te disant ok, qu'est-ce que je fais en premier, puis où est-ce que je vais ensuite, tu t'y prends comment, parce que j'imagine que à ce moment-là t'as pas vraiment d'expérience entrepreneuriale, donc comme tu dis c'est le flou, tu sais pas trop par où commencer. Comment t'as fait pour orchestrer tout ça?
J'ai la chance d'être en design et de pouvoir m'occuper de toute la partie UX, UI. Et donc, du coup, toute la conception et la réflexion, elle a vraiment commencé par là, quoi. Et la chance d'être dans ces domaines-là, ça m'a permis vraiment de poser à plat tout ce que j'avais dans la tête par rapport à ce projet. Et ça, je pense que c'est une force, parce que quand tu dois payer un designer pour faire un projet et que toi t'es même pas tech, pas design, bah en fait t'es des allers-retours de ouf. Ouais. Alors que je pense qu'une des forces, c'est que en tant que designer, ça m'a permis vraiment de tout poser à plat et de partir de la conception pour créer le projet.
Ouais.
Et en fait à ce moment-là, je me suis dit ok, bah moi je suis en design, maintenant j'ai besoin d'un dev, j'ai besoin d'un tech, et donc du coup il faut que je m'associe avec quelqu'un. Et j'ai un freelance qui s'appelle Guillaume, qui est notre CTO aujourd'hui, que je suis allé voir, et je lui ai dit, est-ce que tu veux t'associer avec moi? Et il m'a dit, bah écoute, non. Il m'a dit, non, j'ai pas d'argent, là j'ai besoin d'argent, mais par contre, je suis bossé sur le projet.
Okay.
Et j'ai dit, bon bah écoute, moi je gagne du cash, écoute, je passe en facture et je te paye en facture. Quoi.
Okay.
Et il m'a dit, ok. Et donc du coup, lui, il était dispo, il crée son statut à ce moment-là, auto-entrepreneur.
Ah oui, donc il est devenu freelance pour Freebie, quoi.
Tout à fait.
Quand tu passes de la casquette, je suis freelance et je travaille avec des clients, à je suis client et je travaille avec des freelances.
Ouais, exactement.
C'était comment, ça?
En même temps, en plus.
Tu voyais les deux revers de la pièce.
Ouais, tout à fait.
C'était comment, cette première expérience de client?
Bah, écoute, c'était, en fait, j'avais déjà bossé avec d'autres freelances, quoi. J'avais déjà été client, entre guillemets, d'autres freelances, quand j'avais sous-traité des choses.
D'accord.
Mais là, c'était vraiment ça, quoi. C'était, en même temps, en fait, je suis freelance, je suis entrepreneur et en même temps client. Enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs.
Bah, c'est cool, parce que j'imagine que, du coup, à ce moment-là, tu te poses aussi la question de l'expérience client sur Freebie, en fait. Parce que je sais pas si tu as intégré directement le fait que ces factures là passent par l'outil pour tester ou pas,
que ces factures là
les factures de ton dev, à ce moment là tu les intégrais directement dans la plateforme, ou c'était trop tôt peut-être?
C'était trop tôt, au tout début c'était trop tôt, donc moi j'avais lui filé justement mes modèles que j'avais déjà fait sur InDesign et j'ai comme ça pour qu'il puisse faire des factures, quoi. Mais dès qu'on avait l'outil de facturation prêt, on est passé par Freebie pour faire les factures
pour tester. C'est cool,
cool, ouais.
Qu'est-ce que tu dirais du coup, donc s'il y a quelqu'un, tu vois, moi c'est le cas par exemple, j'ai aussi mon projet entrepreneurial à côté, ça m'intéresse de savoir ce que tu dirais à s'il y a un autre freelance, parce que je pense que ça peut arriver à pas mal de freelance que t'arrives un moment où tu bosses pour plein de clients, tout va bien, la boîte roule, tu gagnes tes sous, etc. Et quand tu vois des petits problèmes comme ça qui t'inspirent, où tu te dis ah tiens, j'aimerais bien créer un truc qui réponde, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui se disent, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce que je fais maintenant que mon agenda est rempli et je bosse pour plein de clients, etc. Avec des amis, notamment Alexis, on parle de freelancing level 2. Qu'est-ce que tu recommanderais à ces gens-là? Tu vois, par exemple, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as eu cette problématique et tu te dis, bah, je vais utiliser mes forces qui sont design pour commencer à bosser dessus. Ce serait quoi pour toi la première étape à faire quand tu rencontres un problème et que tu te dis, tiens, ça m'inspire, j'aimerais faire quelque chose?
Déjà creuser à fond du domaine et regarder tout ce qui se fait autour et tout. Et si c'est la bonne solution et tu penses qu'il y a vraiment quelque chose, c'est de s'associer.
Trouver quelqu'un avec qui bosser.
Trouver quelqu'un direct. Et moi, c'est un des peines que j'ai aujourd'hui, c'est de pas m'être associé dès le départ. Parce qu'en fait, si tu t'associes pas dès le départ, après, c'est compliqué, quoi. Quand t'as tout créé et que quelqu'un d'autre qui va arriver dans le projet, enfin, c'est compliqué, quoi. Et en fait, à plusieurs, on est plus fort.
fameux adage.
Et du coup, franchement, moi, c'est un truc que je conseille, c'est monter une espèce de team de freelance, quoi, une espèce de collectif où il y en a un qui fait le design, un qui fait le dev, un qui fait le market, et du coup d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus fort et d'aller voir directement des clients plus gros que de rester à son échelle dès le départ, quoi.
Ce qui demande du coup à bien poser un peu les règles du jeu, entre guillemets, de on bosse tous ensemble sur ce truc, qui a quoi comme rôle, qu'est-ce qu'on va en tirer comme, entre guillemets, bénéfice après.
C'est ça.
Tu vois, moi aussi, c'est ce qu'on a fait avec Marie quand on a créé Surf. Dès le départ, on s'est dit, c'est ensemble qu'on a envie de donner vie à ce truc parce qu'on était hyper complémentaires. Et du coup, notre manière de faire, c'est de dire, on crée tout ensemble et c'est 50-50. Tous les bénéfices ou tout ce qui passe par ce projet entrepreneurial-là, on se le sépare à 100%, peu importe s'il y en a un qui fait plus de taf ou pas, on n'a pas envie de se poser ce genre de questions. Du coup, c'était hyper clair. Mais j'imagine que à deux, c'est plus simple qu'à trois, quatre, cinq. S'il y a beaucoup de compétences autour, ça doit être plus complexe à gérer.
Je pense que la taille vraiment top, c'est trois.
Trois.
Je dis market design dev.
Ouais.
Et à trois, personne ne se marche dessus, chacun fait ses tâches et et je pense que c'est plus ou moins équilibré et c'est beaucoup mieux comme ça.
Ok.
Parce qu'après trop s'associer, c'est se marier. Hein, donc
c'est clair.
Quand c'est juste un collectif de freelance qui se mettent ensemble pour bosser, qui font trois factures, y a pas de problème. Mais dès qu'on parle de monter une boîte, monter une structure, des choses comme ça, s'associer, c'est se marier quoi. Et c'est tellement compliqué de trouver sa femme que voilà.
Ok. Et du coup, pour revenir au processus que tu disais tout à l'heure, premier truc c'est tu bosses toi sur la conception et t'as la chance d'avoir cette réflexion là. Tu trouves quelqu'un pour bosser sur la partie dev et vous commencez à mettre en place un truc qui commence à réellement exister. Ouais. C'est quoi l'étape d'après?
En fait, on a vraiment pas voulu faire comme justement la plupart des anciens missions, on va dire, des anciennes missions, mais on n'a pas fait un cahier des charges avec tout le projet d'un coup et on part dessus. On a vraiment fait de l'intégration continue, quoi. C'est-à-dire que je prototypais des choses. On avait une vue d'ensemble, bien sûr, on avait toute l'UX qui était faite, mais ce que je veux dire, c'est qu'on testait beaucoup en code, quoi. Genre, on testait un truc, on le codait, on regardait comment ça fonctionnait, on faisait tester à des gens, si c'était OK, on passait au suivant, quoi. Et c'était vraiment que de l'itération continue sur le design, l'intégration et les tests, quoi.
Ouais.
Et tout mélangé, et en fait, on a avancé comme ça au fur et à mesure, et on a monté par brique, et par brique du projet, et il y a deux ans, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on a pris plein de nouveaux chemins, et c'est grâce, en fait, à ces itérations continues sur toutes les features, et sur tout ça qu'on a pu aujourd'hui améliorer le produit en continu, quoi.
Du coup, c'est quoi Freebie aujourd'hui, si tu décris Freebie aujourd'hui?
Aujourd'hui, Freebie, c'est un outil de gestion intelligent qui va être dédié aux freelances et qui va être piloté par un assistant personnel.
Ok. Et à l'époque, quand tu dis ça a changé en deux ans, à l'époque, c'était quoi au tout début?
Un outil de facturation.
Ok. Ça a commencé par là.
Ça a commencé par là. Et puis même, c'est des fonctionnalités internes, je veux dire, dans le logiciel, quoi.
Ouais.
Mais c'est des petites choses qui ont fait qu'on a amélioré toujours en continu l'expérience, quoi.
Ouais.
Et on a eu la chance d'avoir des utilisateurs hyper sympa dès le départ. Ils ont tous joué le jeu, en fait.
Ouais.
Et c'était pas en mode si un truc il va pas, je mets un message sur la page. C'était allô Antoine, regarde ça, là il y a un truc qui bug, est-ce que tu peux regarder,
j'ai besoin d'aide
machin. Et puis en fait, on a lancé beaucoup de tests, beaucoup de focus group avant qu'on ait un seul produit, quoi. Okay. Et dès que les gens s'inscrivaient, ils recevaient trois jours après une notif pour, enfin une invite pour s'inscrire dans mon agenda, pour réserver un créneau, pour qu'on puisse discuter de leur activité. Et ensuite on organisait des groupes, des tests en physique dans un local. On a fait venir des gens.
Ce qui est vraiment l'approche UX, en fait, de vraiment creuser dans les problématiques d'utilisateurs et tout ça, quoi.
Et en fait, on avait un produit en juillet 2017. Qui était fonctionnel, on va dire. Et on avait notre MVP, tu vois. Mais jamais, heureusement qu'on n'a pas sorti ça, quoi. Parce qu'il y a un moment, on dit, ouais, faut un MVP, faut le minimum via produit, faut le sortir vite et itérer. Je suis totalement d'accord avec cette approche, mais par contre, MVP, ça veut pas dire qu'il y a une fonctionnalité, quoi. MVP, ça veut dire que t'as le minimum pour que ton produit ait de la valeur.
Ouais.
Et donc, du coup, il y a trop de gens qui se mettent dans la tête qu'un MVP, faut avoir un sign-in, un sign-up, et c'est bon, t'as ton MVP, quoi.
Ouais.
Et donc, non, je pense vraiment que c'est pas ça. Nous, on faisait des tests sur les serveurs de tests, c'était même pas en prod, c'était codé, mais c'était des tests, quoi. Et donc du coup, on a itéré, mais avec eux dès le départ, quoi. C'était t'as besoin de quoi? Ah ouais, là je verrais ça comme ça. Ah ouais, là j'ai pas compris. Et on a fait tout ça avant de lancer une première version de bêta, vraiment, quoi. Et ça, c'était vraiment des on appelait ça des guérilla tests, parce qu'on n'avait pas de version. On était ça sur le bord d'une table, enregistré avec un logiciel bidon. Enfin, c'était fait à l'arrache, quoi.
Vraiment la base de la base, quoi.
Et donc ça, c'était fin 2017. Après, on a lancé la com, donc on a lancé une landing page avec la promesse et un blog où on écrivait des articles de loi, imbitables en articles cool avec des émoticônes et au tutoiement, etc. Et donc du coup, on avait pas mal de contenu comme ça. Grâce à ça, on avait beaucoup de contenu et beaucoup de visites de gens qui étaient intéressés pour se lancer en freelance et avoir des tips, quoi. Ensuite, en janvier, on a eu la chance d'avoir une subvention de la BPI. On a eu 30 000 euros pour continuer le développement. Et là, on a lancé directement des tests avec un psychologue ergonome. Et donc là, en fait, les 10 aides de personnes qui avaient testé sont transformées en un panel de 150 personnes. Et là, il y avait un psychologue ergonome qui a fait tous les tests utilisateurs, qui les a construits, qui a fait tous les scénarios, qui a fait tout ça, enfin, main dans la main avec moi, mais qui a organisé tout ça.
Très bien.
Et donc, c'est lui qui faisait passer les tests. Et ça, c'était important. Parce que quand c'est le fondateur qui fait passer les tests,
ouais,
les gens ils sont pas sincères en fait. Et quand lui disait bah j'appelle Alan, je suis totalement indépendant de la boîte, il y a rien à voir avec la boîte et je fais passer des tests pour savoir si vous aimez bien ou vous aimez pas.
Ils et, étaient plus prêts à défoncer le produit. Quoi.
À fond.
Plus, mais même en le valorisant quoi, mais
ouais,
c'était,
ouais.
Il était sincère en fait.
Ce qui est hyper important, du coup,
hyper
parce que sinon tu ressors pas les vrais insights, c'est pas problématique.
Et surtout qu'on a réussi à faire bouger des gens physiquement, quoi. Et ça, c'est ouf, quoi. On sort un produit, on dit, hello les gars, vous êtes à Paris, cool, machin, inscrivez-vous là. Les gens, ils étaient d'accord, quoi. Et on a rien offert en contrepartie. Enfin, c'était juste, enfin, si on leur a offert des mois gratuits d'utilisation pour l'outil, mais c'était, ils sont toujours prêtés au jeu directement, quoi. Et sans eux, en fait, on n'aurait jamais pu avoir le produit qu'on a aujourd'hui. Ce qui est ouf, c'est que là, hier, on a reçu un colis avec des bonbons. D'une utilisatrice, quoi.
C'est vrai?
C'est mortel. Enfin,
il y a une belle relation, hein.
Mais ouais, elle nous a offert des bonbons parce qu'on l'a toujours dépanné quand elle avait des soucis, on a répondu à toutes ses questions sur le freelancing.
Trop bien.
Et elle nous envoie des bonbons, quoi. C'est hyper cool, quoi. Il y a deux ans, j'avais même pas 50 personnes sur une liste
ouais.
Et aujourd'hui, on a un utilisateur qui envoie des bonbons ou la semaine dernière, il y a un utilisateur qui m'appelle un samedi, il me dit Antoine, t'es au bureau, je passe à Paris, je viens de Bordeaux, là, est-ce qu'on peut prendre un café?
Trop bien.
Pas grave.
Mais c'est marrant parce que du coup, comme moi, je suis utilisateur depuis pas si longtemps et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas utilisateur depuis plus longtemps. La dernière fois, j'avais un problème et je dis ça pour les auditeurs, surtout pour montrer à quel point t'es engagé aussi dans le feedback. Et je mets un message sur la plateforme et genre une minute plus tard, je crois que tu m'envoies un mail en disant « appelle-moi avec ton numéro ». Et c'était trop bien parce que du coup, bah effectivement, problématique, boum, réponse directe et feedback qui remonte sur ça aussi. Donc je vois grave le processus vertueux dans lequel vous êtes de vraiment améliorer. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est tout le temps de l'itération continue. Et j'imagine que c'est encore le cas aussi avec toutes les nouvelles fonctionnalités que vous prévoyez de sortir.
C'est totalement le cas. Et c'est marrant parce que cette itération continue, elle nous a fait sortir un petit mot de la Startup Nation un peu, mais on a sorti le Slackstorming.
Slackstorming.
Parce qu'au final, avec Guillaume, on fait jamais de rendez-vous, quoi.
Ouais.
On fait jamais de points. On est continuellement en train de parler du projet. Tout le temps. On a des channels dédiés aux fonctionnalités qu'on a, et dès qu'on a un truc, on partage, on se met d'accord, on n'est pas d'accord, on se contredit, et là, hop, on trouve une solution grâce à donner nos arguments et à parler, et hop, puis celui qui a raison, bah, il a raison, quoi. Et on parle là-dessus, quoi.
C'est drôle.
Mais du coup, on fait jamais de points, on dit pas, ah ouais, vendredi à 16h30.
Ouais.
Bien sûr, il y en a pour des choses beaucoup plus organisationnelles, mais pour des choses, on a besoin d'une réponse ou l'itération. Boum, on parle, et en fait, c'est le moment où tu penses à la chose qui est la plus forte, en fait, dans ta tête.
Ouais, c'est clair, forcément.
Et si tu dis, ok, faudra qu'on parle ça dans une semaine.
Bah, tu le laisses de côté.
T'as déjà oublié tout ce que tu voulais dire, quoi.
Ouais. Marie, elle aime bien dire que les questions sont des graines, et pour que les graines poussent, faut les arroser, donc se poser les questions tout le temps.
Bah, c'est ça.
Coup, c'est quand t'en parles, quand t'écris dessus, quand t'échanges sur les trucs, bah, forcément, t'as réflexion à l'avance, en fait.
Il y a plein de messages que j'ai mis à Guillaume. Hello, hein, faut qu'on fasse ça pour. Ah bah non, et en fait j'avais déjà la réponse en écrivant la...
trop drôle.
Ah ouais, putain.
Ok, c'est bon. Est-ce que Guillaume, il est freelance à côté aussi ou pas?
Très peu.
Ok.
Très peu, 95,5%.
Ok.
On va dire. Mais c'était aussi une volonté quoi de nous de pouvoir en fait être propre utilisateur de notre outil quoi.
Ouais. Et c'est pour ça, c'était la question qui suivait, c'était à quel point est-ce que tu penses que ça a été important dans la construction de Freebie, de l'outil et tout ça, que toi. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui, que tu sois freelance encore à côté et que tu bosses encore, bon là c'est un client en long terme parce que t'aimes bien ce genre de relation comme tu expliquais. À quel point tu penses que c'est important et ça a été déterminant dans la création de l'outil?
Déterminant énormément, puisque si t'es pas utilisateur de ton outil, tu vois pas les points de friction et tu vois pas les problématiques que tu mets aux autres quoi.
Ouais.
Et le fait de bosser en freelance à côté, ça fait que il y a plein de choses qu'on a vues nous-mêmes qu'on n'aurait jamais vu en fait et que des utilisateurs n'auraient peut-être pas dit. Et c'était des petites choses bêtes, mais des détails surtout, mais des choses que si on n'utilise pas notre outil, on peut pas en fait se poser les bonnes questions quoi. Et nous on avait fait un truc au début où tu devais, c'est bon, mais tu devais attacher un document à cet endroit-là et en fait c'était pas cohérent quoi, puisqu'en fait quand dans le process qu'on utilisait, en fait c'était pas ça, c'était à ce moment-là on n'avait pas besoin, fallait le faire juste avant. Et c'est le fait qu'on l'utilisait l'outil qu'on s'est rendu compte de ça par exemple quoi.
Ouais, ce qui est différent de ce qu'aujourd'hui, comme tu le sais très bien, et comme on en a parlé la dernière fois, le freelancing, ça explose. Il y a de plus en plus de freelance en France. Il y a Miles qui a sorti son étude récemment. Là, on est 930 000 aujourd'hui maintenant en France, et je crois que c'est 9 millions ou 500 000 en Europe ou un truc comme ça. Et forcément, du coup, c'est un marché, entre guillemets. On se dit, il y a tellement de freelance avec tellement de problématiques, il y a plein de choses à créer. Et du coup, c'est pas étonnant, et on le voit avec les plateformes, les nouvelles solutions qui s'ouvrent, etc. Il y a beaucoup de start-upers, donc des gens qui ont fait seulement de la start-up ou qui ont tout le temps bossé en start-up, qui se lancent et qui créent des solutions. Mais pour moi, ces personnes-là n'ont pas forcément l'expérience du terrain d'un freelance et ne connaissent pas réellement ce que c'est la vie d'un freelance. Et du coup, tu vois, quand tu poses des questions à ces gens-là, tu te dis, en fait, ils peuvent pas vraiment avoir les réponses parce qu'ils ont jamais vraiment vécu ça dans le concret. Shine, par exemple, on en parlait aussi la dernière fois, ils commencent à se dire, oui, c'est vrai, il faut que les gens chez nous, ils soient freelance aussi. Donc maintenant, ils ont un jour par mois pour être freelance, ce qui n'est pas non plus une énorme expérience de freelance à acquérir en un jour par mois. Mais on voit que les gens commencent à se poser ces questions-là. C'est pour ça que je te dis, je te demande, et moi, je trouve ça aussi tout autant important que ce que tu disais, d'être freelance en plus de son truc entrepreneurial, pour vraiment, si c'est au service des freelances, comme nous deux, nos projets entrepreneuriaux le sont, pour vraiment continuer d'acquérir toutes ces notions sur le terrain et dire, en fait, est-ce que ce que j'apporte à d'autres freelances, c'est vraiment la réalité du terrain? Oui, parce que je le vis au quotidien, moi aussi. Ça, je trouve ça vraiment important.
Je pense que on ressent tous les meilleurs produits, entre guillemets, c'est que si t'es pas dans le domaine depuis si t'es pas dedans et hyper convaincu par le truc, c'est compliqué de faire un outil où en fait si tu utilises pas ton propre outil, tu peux pas avoir les points de friction et tu peux pas avoir les problématiques quoi. Et si les gens qui créent l'outil sont encore plus loin de ça, le produit sera bien, il sera peut-être beau, mais il répondra pas à toutes les problématiques que les frions quoi.
Ou en tout cas les problématiques collatérales qui viennent derrière, ils n'auront pas forcément la réponse.
Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous on différencie pas mal sur l'expérience et sur l'ergo, c'est que on a cassé un peu tous les codes comptables pour justement pas que ça ressemble à des logiciels habituels et que tout soit connecté ensemble, et que tout soit simple et que tout soit relié quoi. Et c'est parce que en fait on est en freelance qu'on sait exactement ce dont on a besoin.
Du coup aujourd'hui, avant t'étais à 4/5 sur Peugeot et à 1/5 sur tout le reste. Maintenant, de ce que tu me racontais la dernière fois, t'as réussi à inverser ça et t'es plus sur Freebie que sur tes projets de freelance. Ton projet freelance, c'est avec une boîte qui s'appelle Créaminel, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Et on a de la chance, on est dans leur magnifique studio aussi. Donc aujourd'hui, on les remercie s'ils nous écoutent. J'espère qu'ils nous écoutent. Comment tu fais du coup pour gérer le fait de bosser sur ton entreprise et de bosser sur ce projet client là?
Déjà je me suis rajouté 2 jours sur la semaine.
Okay. Donc c'est pas 5, c'est
avant j'étais en 5e, maintenant je suis en 7e. Okay. Mais c'est une petite période, mais en gros je bosse 1 jour et demi par semaine, on va dire, en comptant le week-end, sur ce projet là où je m'occupe en fait de gérer les équipes dev et design pour un produit dans l'IA et la musique.
OK.
Et en fait, j'arrive à gérer ça parce que mes bureaux de Freebie sont dans les bureaux de mon client.
Okay.
Et nous on loue des bureaux à l'intérieur de ces bureaux et c'est grâce à ça que je peux switcher de projet en fait d'une
super
minute à l'autre
rapidement.
Super rapidement, pas besoin de faire du trajet, pas besoin de voilà, s'il y a une question d'une équipe elle me demande, même si je suis sur l'autre projet je réponds, et c'est pas en mode je fais que ça, c'est que je suis tout le temps là, et donc du coup ça me permet de gérer les deux projets sans problème quoi.
Ok, donc t'as une facturation au mois et du coup c'est genre pour être dispo tout le temps et bosser tant de jours par semaine sur le projet, c'est ça?
C'est ça, on est parti sur environ 1 à 2 jours par semaine.
Okay.
Et moi je travaille environ 1 à 2 jours par semaine et parfois 0 parce que Freebie ça me prend tout mon temps et que je peux pas. Mais c'est vraiment en fonction du temps, du timing, et à la fin du mois on regarde combien de temps j'ai travaillé avec notre super outil de time tracking sur Freebie. et en 2 clics on génère une facture avec toutes les entrées que j'ai fait dans la journée.
Très bien.
Et comme ça j'envoie une facture tous les mois ou
tous les deux mois, ça dépend.
Du coup, serait quoi ta recommandation pour les gens comme nous? Et du coup, moi, je suis preneur de tes recommandations pour cette gestion-là aussi, comment tu fais pour switcher et danser sur ton pied freelance, puis danser sur ton pied d'entrepreneur? C'est quoi un peu les bonnes pratiques que tu as découvertes, toi, en le faisant, pour te dire, ben, comme ça, c'est hyper fluide et je saute d'un pied à l'autre? Le fait d'être dans les mêmes bureaux, forcément, ça facilite, mais d'autres, du coup.
Bah, déjà, je pense que sans mon activité de freelance, j'aurais jamais pu monter ma boîte.
Ouais.
Et c'est grâce, en fait, à toutes les compétences que j'ai acquises en free que j'ai pu monter cette structure. Mais on est quand même dans le même domaine. Enfin, on est indépendant, on gère son temps, on gère ça, mais on travaille pour soi, donc c'est assez différent. Et du coup, pour gérer la...
La question, c'était gérer ton organisation de comment tu fais dans ta tête déjà pour jongler entre les deux balles, quoi.
Mais c'est compliqué. parfois, je deviens schizo un peu.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut être à jour, quoi. Faut tout savoir, tout connaître et pas prendre de retard, quoi.
Ouais.
Si tu prends du retard, c'est fini. Et s'il y a des trucs que tu loues pour que tu dises je le ferai plus tard, c'est pas possible de gérer les deux, quoi. Il faut avoir toutes les tâches terminées le soir même et d'être hyper bien organisé, quoi.
Parce que je sais que toi, du coup, t'es très organisé. On voyait ton calendrier tout à l'heure où t'as même des autres trucs automatisés qui te disent quand t'arrives au bureau, quand t'es parti pour pouvoir suivre tout son temps. C'est quoi les outils que tu utilises et un peu ta méthodologie, du coup, pour t'organiser? Moi, par exemple, j'aime bien essayer de prendre un temps, je le fais pas assez souvent, malheureusement, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais de prendre un temps, par exemple, le dimanche, pour me dire, OK, ma semaine, voilà à quoi elle ressemble, et limite, je timebox tout sur la semaine. Comment, toi, tu fais?
Pareil, mais le lundi.
Le lundi, tu te prends un temps.
Lundi matin, assez tôt, et je lis déjà tous les mails du dimanche que j'ai pas lus. Et quand je les ai pas lus. Et ensuite, je programme ma semaine aussi, pareil, Trello. Enfin, je suis passé sur Aura, mais c'est la même chose.
C'est un Trello. Okay.
Et c'est un espèce de Trello. J'ai une fonction qui est cool, c'est que depuis mon mail, je peux ajouter des cartes Trello d'un mail sur lequel je dois répondre, qui permettent de jamais les oublier, quoi. Dès que j'ai un truc important que je peux pas répondre tout de suite, je les mets dans une carte.
Okay.
Et ensuite, je travaille avec la méthode Mosco. Donc,
je la connais pas.
C'est priorisation de tâches. Et les tâches les moins importantes aux plus importantes et justement tu peux déplacer les cartes de gauche à droite jusqu'au moment où t'as plus de temps et puis avec une colonne terminée
du coup tu fais les tâches. Ah oui, en gros t'as des tableaux et les tâches les moins importantes sont d'un côté, les tâches les plus importantes sont de l'autre. Tu fais lesquelles en premier, du coup?
Les plus importantes.
Les plus importantes, ok. Parce que moi j'utilise une méthodologie qui s'appelle le crapaud. Enfin, c'est un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Eat the Frog, et en gros ce qu'il dit c'est pour commencer chaque journée, mange un bon gros crapaud dégueulasse et le reste de ta journée sera fantastique.
Ouais.
Le crapaud, en gros, c'est la plus grosse tâche, la plus difficile, mais qui te donne fait avancer le plus loin, quoi.
Ouais. Bah c'est vrai que le matin on fait pratiquement toute la journée, quoi.
Ouais.
Et moi j'aime bien bosser tôt pour justement avoir, enfin, t'arrives les 10h du mat, t'as déjà bossé 2-3 heures, c'est quand même fou.
T'es un pratiquant du Miracle Morning?
Bah pas. J'aime bien me lever tôt, quoi. Okay. J'aime bien me lever tôt, surtout en ce moment, et je suis beaucoup plus productif le matin que le soir.
Je connecte vachement ça, moi aussi.
Ouais. Et du coup, je préfère tout faire dans la journée plutôt que de faire des pauses et reprendre le soir, par exemple. Avant, je faisais ça, je bossais la journée, puis j'allais dîner, puis je reprenais le travail. Mais maintenant, je n'y arrive plus et je préfère travailler plus tard, quitte à dîner un peu plus tard, mais stopper la journée, quoi.
Ouais. Et c'est quoi, du coup, ta vision de ton mode de vie de freelance / entrepreneur, du coup? Dans 5 ans, par exemple, est-ce que tu te vois être à 100% sur Freebie, ou est-ce que tu te vois toujours avoir les deux casquettes qui avancent constamment ensemble, comme on se disait là? C'est quoi un peu ta vision pour le futur?
Je sais même pas ce que je fais demain. non, mais c'est assez clair. Et moi, déjà, forcément, j'aurai toujours un statut de freelance, je pense, à côté, même s'il sera pas du tout actif pendant beaucoup de temps. Moi, je vais passer à 100% bientôt sur Freebie, totalement, parce que ça commence à prendre pas mal d'ampleur et du coup, il faut vraiment être à 100%, même si au final, je le suis, mais je vais être à 100% sur 5 jours, on va dire.
Ouais.
Et mais dans 5 ans, wow, c'est trop loin ça.
Du coup, disons dans 2 ans.
Dans 2 ans, je serai toujours à fond sur Freebie, à 100%. On aura une grosse équipe, j'espère. Et
c'est quoi ta vision parfaite pour l'outil alors?
L'outil, c'est vraiment une vingtaine de collaborateurs dans des super bureaux comme ici, par exemple.
Ouais.
Et d'avancer, d'aller sur tous les secteurs du freelancing, quoi. Et de vraiment faire un outil indispensable pour les freelances, quoi.
Qui permettent de gérer, du coup, toute la gestion de l'activité ou que la partie administration, facturation, tracking de temps, etc., comme aujourd'hui?
Déjà la partie admin.
Ouais.
Et ensuite, c'est aussi d'avoir une relation client, en fait.
OK.
Et bientôt, les clients auront un compte sur Freebie et du coup, ça pourrait être beaucoup plus fluide entre les clients et les freelances.
Tu utilises les nouvelles fonctionnalités en direct.
Faut pas dire. mais ouais, donc il y aura ça. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment, après, partir sur les outils de productivité, partir sur des choses beaucoup plus concrètes qui vont vraiment aider les free et pas juste l'admin, mais aussi l'intégralité de leur activité.
Ce qui vont avec les problématiques de base que tu avais identifiées au tout début, c'est que... j'arrive pas à gérer ça parce que j'ai pas le temps. Mmh. Et du coup, de revenir sur cette question de gestion du temps, en fait, en freelance, c'est ça?
Exactement.
Ok, cool. On va arriver sur les quelques dernières questions qui sont devenues traditionnelles et j'en ai rajouté une au dernier épisode, donc tu es la deuxième personne à répondre à cette deuxième question. C'est est-ce que dans ta vie de freelance ou ta vie d'entrepreneur, du coup, mais plutôt freelance pour les gens qui nous écoutent, t'as déjà rencontré une grosse galère, un truc où tu t'es peut-être même demandé « Ah, je vais peut-être arrêter ma vie de freelance, c'est trop dur là. » Est-ce que tu as déjà rencontré ça et comment tu y as fait face? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais beaucoup trop de clients, tu t'es peut-être posé des questions à ce moment-là. C'est quoi ta plus grosse galère et comment tu as fait face à ça?
On va pas se mentir, c'est le cash. Hein. Et quand tu rentres pas l'argent, parfois pendant 1 ou 2 mois, parce que c'est des projets en cours et que tu seras payé plus tard, tu te dis ok, mais là faut que je mange, faut que je paye mon loyer, faut que j'avance. Et je sais que j'ai perdu un contrat un jour que je devais avoir et qui allait me faire décoller au niveau financement. Et du coup, j'attendais que ce contrat et je l'ai pas eu pour X raisons. Et donc du coup, tu tombes dans un truc où t'as joué carte sur table et en fait t'as plus rien, quoi.
T'as joué le bluff au poker et au final
c'est ça, quoi. Et donc je pense que la problématique c'est le financement et c'est d'être trop gourmand et sur les timings, quoi. De se dire tranquille, je serai payé dans 1 mois et demi et en fait le projet, le client il t'a pas répondu pendant deux semaines et que le projet n'a pas encore commencé quand tu voulais être payé, quoi.
Ouais. Et du coup ne pas mettre tous tes œufs dans un seul panier, quoi.
Exactement. Et programmer et sécuriser un peu pour prévoir aussi les coups durs.
OK. Et merci pour cette réponse transparente, du coup. Les deux autres questions qui sont les dernières, c'est la première, c'est si t'étais face à Antoine qui se lance, c'est son tout premier jour de freelance, il se lève tôt, du coup, il ouvre son ordi, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes? Toutes ces années d'expérience.
On en a parlé tout à l'heure, mais je pense que s'associer, c'est un des meilleurs conseils.
Ah ouais, même juste pour la partie freelance, tu dirais trouver quelqu'un avec qui avancer, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, les projets seront plus ambitieux, seront plus gros, plus de valeur ajoutée, en fait, sur ton activité. Et donc, c'est très bien de commencer par les six vitrines, comme j'ai fait, mais si tu mets directement la barre un peu plus haute, je pense que tu peux prendre beaucoup plus de skills que de rester tout seul pour commencer, quoi. Après, le fait d'être tout seul, ça te permet vraiment de connaître tous les domaines et donc, du coup, d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple et de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais d'un côté, tu fais les choses moins bien quand t'es tout seul et que tu connais pas les autres domaines, quoi. Et ça permet de former, mais d'un côté faut quand même se spécialiser et je pense que si tu spécialises dès le départ dans un domaine à plusieurs, t'es plus fort, quoi, et t'as pas beaucoup plus loin sur
et t'apportes plus de valeur au client aussi ouais, c'est un peu l'expérience que j'ai depuis que j'ai créé le collectif, c'est de me dire en fait à moi tout seul j'apporte de la valeur certes, mais après il y a plein d'autres problématiques qui arrivent et ça me frustre de lâcher un peu mon client dans le vent, tu vois. Et du coup, c'était de se dire, on se regroupe avec plein d'autres compétences hyper complémentaires pour avancer ensemble sur un sujet précis, marketing, design. Mais on peut aller beaucoup plus loin et apporter beaucoup plus de valeur aux clients et créer, comme tu disais, les relations vertueuses de long terme avec ces clients-là et pas les laisser partir avec un autre freelance, puis un autre, et partir en sauvage dans les bois. Et la dernière question, du coup, c'est quoi la question que tu aimerais poser à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'elles réfléchissent à leur activité de freelance?
Moi, je voulais parler de la facturation parce que c'est assez important de savoir combien en fait t'as besoin de facturer par jour pour subvenir à tes besoins. Et souvent, on parle le prix et on se base juste sur le prix à la journée sans prendre en compte ce qu'il y a autour. Et la question que je pose, c'est plus combien est-ce que tu veux gagner
par jour pour être tranquille et d'avoir assez d'argent pour faire tout ce que tu veux. Et en fait, dans ça, c'est pas juste une question de montant. Faut vraiment prendre en compte tout ce qui va avec. Et par exemple, sur une année calendaire, de savoir combien de temps tu travailles, combien de jours tu travailles par an.
Combien de jours tu veux travailler.
Combien de jours tu dois travailler. Enfin, okay. que tu peux travailler par an, déjà. Okay, ouais. Parce qu'il y a tes jours où tu travailles et des jours où tu prends des vacances. Ouais. Ensuite, faut enlever ces vacances-là. Ensuite, faut calculer du coup le prix de toutes les de la gestion, donc la facturation, la gestion de des clients, du branding, des choses qu'on fait pour soi, quoi. Donc ça, faut enlever dans le temps. Et au final, tu t'aperçois que tu travailles pas plus de 150 jours par an, presque, si t'enlèves tout ça. Et donc après, tu te dis, bah moi, je veux gagner 4000 euros par mois minimum. Bah, tu fais, ça fait 48 années. Et donc du coup,
tu divises
par le nombre de jours qui te restent. Et tu sais que par jour, tu dois gagner tant pour subvenir à tes besoins. Et ça, je pense que c'est des choses que moi j'ai fait trop tard. Et tu te poses pas les mêmes questions à la base. Et t'as une mutuelle, t'as une assurance et tout. Ça passe tous les mois, mais tu les vois pas passer. Et tranquille. Et en fait, c'est que 60 euros, c'est que 50 euros, c'est que 20 euros.
Et au final, quand ça s'additionne.
Et au final, non, c'est pas ça, parce que tu t'aperçois que si tu fais le ratio, bah quand t'étais payé 300 euros, bah en fait, t'as pas du tout 300 euros dans la poche, quoi.
Et donc, je pense
faut pas négliger cette partie-là.
Ouais, c'est clair. Je pense que du coup, faire ce genre de choses, ça permet aussi de pas tomber dans le biais dont tu parlais tout à l'heure. De ah putain, là j'ai plus du tout de cash parce que j'ai mal prévu les paiements des clients et ainsi de suite, et j'ai trop de choses qui sortent et pas assez qui rentrent. Et je pense que c'est aussi hyper important, moi, quelque chose que j'apporte, dont je parle beaucoup, et on en parle aussi beaucoup dans Surf, c'est de dire en fait, tu peux créer n'importe quelle vie de freelance et tu peux vivre, être freelance de différentes manières. Mmh. Il y a une infinité de manières d'être freelance,
c'est ça.
Et si tu te poses pas les questions de combien de temps je veux bosser dans une année, quel mode de vie j'ai envie d'avoir, tu peux pas savoir combien te facturer, parce que bah il faut que ce que tu factures, ça te permette de vivre la vie que t'as envie de vivre.
Bah c'est ça, si t'es à temps plein, pas à temps plein, si tu travailles en 3/5,
si tu vois, exactement, 7/7 comme toi peut-être aussi. Et ouais,
tellement de choix différents que c'est, il y a pas de réponse parfaite, c'est vraiment en fonction de ton cas, mais faut pas négliger cette partie-là pour être sûr d'arriver, quoi.
Je pense aussi ça te donne beaucoup plus de potentiel de défendre tes prix aussi, parce que tu sais que t'as besoin de tel prix pour avoir tel mode de vie, et ça te donne un vrai pourquoi derrière, et c'est pas juste bah j'ai lu sur internet que c'était ça le tarif que je devais faire dans un simulateur ou quelque chose comme ça. Je pense que ça te permet de mieux défendre tes prix aussi.
Tout à fait.
Du coup, est-ce que tu peux répéter la question pour conclure? C'était bon, je vais la répéter.
Ah, la question justement, ouais. combien veux-tu gagner en fait tous les jours, et en prenant en compte justement tout ce qui va autour. Ouais. Et pas juste le prix que tu factures.
Pour subvenir à tes besoins et ton mode de vie.
À tes besoins et ce que tu as envie de faire, quoi.
Génial. Bah écoute, je te dis un grand merci Antoine pour cette belle conversation sur ton chemin du freelance à l'entrepreneur, ou les deux casquettes en même temps actuellement. Et je te dis à très bientôt.
Et bien, merci beaucoup pour l'invitation Thomas, et puis à très bientôt.
Ciao.
Ciao.
J'espère que tu as apprécié cet échange avec Antoine. Pour apporter des clés complémentaires à ce qu'on s'est dit dans cet épisode, j'aimerais simplement appuyer sur trois points qu'on a abordés qui me semblent essentiels pour nos vies de freelance. Mais encore plus quand on souhaite mener et développer un projet entrepreneurial qui s'ajoute à cette vie de freelance. Et la première de ces choses, c'est identifier notre zone de flow. Quand est-ce que tu es le plus productif, le plus créatif, le plus focus pour avancer sur les choses qui feront vraiment avancer et développer ton activité? Prendre le temps de t'observer pour identifier cette zone. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est dans un café? Est-ce que c'est chez toi? La seconde chose, c'est de trouver un partenaire. D'une part, ça te permettra d'apporter plus de valeur à tes clients si vous avez des compétences complémentaires ou qui peuvent s'imbriquer. Mais surtout, c'est important parce que c'est incroyablement puissant, le pouvoir du collectif et de ce type de partenariat, quand on avance ensemble sur les mêmes problématiques, quand on se challenge, quand on se soutient et quand on pousse l'autre à devenir une meilleure version de soi-même. Et la troisième chose, c'est cette approche un peu plus scientifique de notre tarification dont on parlait avec Antoine en fin d'épisode, et c'est d'ailleurs le sujet de sa question de la semaine. Combien d'argent tu as besoin pour vivre ce que tu as envie de vivre, pour créer et vivre ton mode de vie idéal, et ensuite de tarifer tes services, tes prestations et créer des devis en fonction de la réponse à cette question, et pas en mettant un doigt mouillé en l'air. Voilà, je vais plus loin sur ces trois points dans mon article associé à l'épisode, pour lequel tu trouveras le lien en description, comme toutes les semaines. Aussi, et pour ceux qui ont lu mon article invité sur le blog de la Bande à Part la semaine dernière, vous le savez déjà,
j'avais envie de vous partager mes questionnements récents sur le futur du podcast, mais surtout sur le sujet du sponsoring. Suite à une demande de la part d'une agence d'influence qui voulait que je sponsorise le podcast pour un de ses clients. Et du coup, en réfléchissant à la question, je me suis dit que si jamais je mettais en avant un produit ou un service dans ce podcast, pour vous, il faudrait que je sois vraiment convaincu par la valeur que ça apporte, et presque même que j'en sois utilisateur pour être convaincu de cette valeur. Comme le disait Antoine dans l'épisode, ce n'est qu'en étant utilisateur de notre propre produit ou de tout autre produit qu'on se rend réellement compte des frictions, des points d'amélioration et de la valeur qu'il apporte. Et du coup, cela en tête, j'ai envie d'expérimenter quelque chose avec vous aujourd'hui en vous partageant en description mon lien de parrainage pour Freebie. Donc en vous inscrivant sur ce lien pour tester l'outil, vous aurez droit à 2 mois de test gratuit plutôt qu'un mois en passant en public par le site. Et de mon côté, si vous décidez de vous inscrire après ces 2 mois de test, j'aurai 1 mois gratuit à mon tour pour continuer de l'utiliser, sachant que c'est un outil que j'utilise aujourd'hui et qui m'apporte vraiment de la valeur et que j'adore. Ça me change la vie, ça me fait gagner beaucoup de temps. Pour être du coup tout à fait transparent avec vous, ce lien, c'est pas de l'affiliation. C'est-à-dire, je ne touche aucun argent pour ça, pour en parler et pour vous partager ce lien-là. Même si j'y réfléchis, et je ne me l'interdis pas dans le futur, à condition que je sois réellement convaincu que les choses que je vous présente, dont je vous parle ou je vous propose des liens d'inscription par exemple, peuvent réellement faire une différence dans votre vie de freelance. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous en parlerai pas et je ne vous le présenterai pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et que ma transparence est ok pour vous aussi à cette partie de fin. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye bye.